as frappé à ma porte. Depuis ce jour, ma vie a changé. C'est l'amour que j'apporte, c'est ma vie que je viens te donner. Je chante, je chante à tout cœur, mais de tout mon cœur. Jésus, ma vie, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Si mes yeux ne te voient pas, alléluia, alléluia, alléluia. Par la foi, je m'en vais n'importe où. Avec toi, je serai jusqu'au bout. Et je chante, je chante, je chante.
Seigneur Jésus-Christ, ce soir, Seigneur, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour la guidance de ton esprit, nous te remercions, Seigneur, parce que nous remettons tous les jours entre tes mains, nous voyons que tu nous guides, que tu nous conduis, que tu ne nous trompes pas. Je te remercie, Seigneur, pour cela. Et je veux te prier ce soir pour mes frères et sœurs qui écoutent ce message sur Internet et ils sont aussi ici au sanctuaire, afin que tu bénisses chacun et chacune et que ta parole puisse vraiment atteindre le cœur, l'être central de chacun. Et je te bénis d'avance pour cela, mon Dieu. Je veux te prier aussi pour le petit Raphaël, Jacques. Je te prie, Seigneur Jésus, que tu poses ta main bénissante sur cet enfant et que toute maladie quitte ce corps au nom du Seigneur Jésus-Christ et que les médecins qui sont en train de s'en occuper et vraiment les mains guidées par toi pour trouver et faire ce qui est à faire. Je te remercie, Seigneur, de soutenir le papa, la maman, les sœurs, enfin, que tout se passe bien dans ton ordre, Père, dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Amen. Amen. Voilà, je vous invite à vous lever, on va faire une lecture dans Matthieu chapitre 25 ce soir. Matthieu 25... À partir du verset du chapitre 25, verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria : voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages : donnez-nous-en, parce que donnez-nous de l'huile, parce que nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent : non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit : je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Avez-vous remarqué que, avant de s'endormir, Les vierges partaient déjà à la rencontre du Seigneur. Est-ce que vous avez remarqué ça? Quand on parle de l'enlèvement, on pense que c'est à partir du moment où on décolle de la terre qu'on part à la rencontre du Seigneur. Que nenni! On part à la rencontre du Seigneur à partir du moment où on fait la paix avec lui, notre marche, notre vie, la façon dont nous nous comportons, tout ça, ça nous amène à rencontrer le Seigneur, à aller au devant du Seigneur qui est en train de revenir. Je vous ai toujours dit, l'enlèvement de l'épouse, c'est un processus. Et à partir du moment où on rencontre Jésus, on part à sa rencontre. C'est ce que vous faites quand vous allez à votre boulot. C'est ce que vous faites quand vous revenez du boulot. C'est ce que vous faites quand vous êtes en train de faire les tâches ménagères. C'est ce que vous faites tout le temps. Vous êtes en train d'aller à la rencontre du Seigneur. Mais comme il tardait, la Bible nous dit, il y en a qui se sont endormis. Elles se sont endormies. Alors on va revenir là-dessus. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Pour bien que cela soit compris. Je sais que j'ai déjà dit certaines choses, mais je vais les répéter et je ne me lasserai pas de les répéter. Je crois que quand les prophètes allaient de lieu en lieu, ou quand Jésus allait de lieu en lieu prêchant la parole de Dieu, il se cassait pas la tête à inventer des nouvelles paraboles tous les jours, mais comme il changeait d'endroit et de public, il redisait souvent les mêmes choses parce que il y a des choses qui doivent être réentendues. Il y avait des gens qui le suivaient partout et qui avaient déjà entendu 10 fois la parabole des vierges sages et des vierges folles. Mais tant pis, ils répétaient parce que c'est nécessaire. Quand notre esprit est venu dans la chair, l'être que nous sommes a été créé. L'âme, notre être s'est mise à évoluer. Premièrement, elle s'est mise à évoluer. Elle a commencé à grandir. L'autre jour, nous avons emmené les petits voir un spectacle juste à côté de chez Mickey avec des cow-boys, tout de suite je dis Mickey, il y a mon petit-fils qui me regarde là, hein. Ah, on était voir les cow-boys, les Indiens, et je me disais, et dire que quand il aura 12 ans, il se rappellera même plus qu'il a vu ce spectacle alors qu'il était fasciné par ça. Et il aura besoin d'y retourner. Eh bien, nous sommes faits de la même manière. Il faut qu'on se rappelle les choses, qu'on les redise et qu'on revienne aux choses essentielles afin que ça entre bien et que ça y reste bien. Donc, quand notre esprit est venu dans notre chair, quand on était tout petit, on est sorti du ventre de notre mère, notre esprit éternel est entré dans notre corps, on est devenu l'être vivant que nous sommes, et nous avons commencé à évoluer, à grandir, à apprendre des tas de choses. Ça, c'est le degré le plus bas. Nous étions au degré numéro 1. Parce que, étant donné que le péché est entré dans le monde, notre être, notre âme est perdue. Elle est coupée de Dieu. Elle a tout à découvrir. Elle est ce que la Bible appelle dans les ténèbres. Elle est dans les ténèbres. Tous les gens qui naissent sur cette terre, ils sont nés dans les ténèbres. Ils ne voient rien au sujet des choses de Dieu. Ils comprennent rien aux choses sacrées, comprennent rien au sujet de la grâce, et elles ne peuvent comprendre que grâce à leur sens, à ce qu'elles voient, à ce qu'elles entendent, à ce qu'elles touchent, hein. Et puis, il y a aussi une chose, c'est que notre âme, c'est-à-dire l'être vivant que nous sommes, qui a donc un corps, notre âme a un corps, notre être vivant a un corps, donc notre âme, notre être vivant, elle a hériter quelque chose, c'est-à-dire il y a une hérédité génétique. Hein, vous avez chez nous on dit vilain chat beau minet. Si les mamans sont moches, les enfants sont beaux. On dit ça, c'est un drôle d'héritage. Hein. Mais on a tous quelque chose, on hérite quelque chose de nos parents et un héritage génétique. Et puis on acquiert, n'est-ce pas, une connaissance. Par nos expériences vécues, on se rend compte que si on touche quelque chose, comme par exemple un radiateur, c'est chaud. Si on touche un glaçon, c'est froid. Et on apprend, on fait des expériences petit à petit. Et aussi, on apprend dans la société humaine. On apprend, d'abord, papa, maman. On fait la différence. Dans la communauté, on a beau être plein d'adultes, les enfants se trompent pas. Ils savent qui est papa, maman. On apprend les choses. Et l'âme, cet être vivant que nous sommes, elle acquiert des tas de connaissances, elle en acquiert beaucoup qui sont fausses. Elle se trompe parce que la société est dans les ténèbres. Alors, la société enseigne des choses qui sont, pour la plupart, très souvent fausses. Et c'est nos âmes, l'être que nous sommes, a des appétits, a des passions qui sont contraires à ceux de la sainteté, de l'Esprit de Dieu. C'est contraire, c'est différent. C'est ce que la Bible appelle la chair. La chair, ça n'a rien à voir avec la viande. Pour expliquer que ça n'est pas spirituel. C'est la chair, c'est la matière. On devrait dire c'est la matière. Eh bien, l'âme, à cause de certaines expériences, devient craintive. Et elle a une volonté qui se déprave de plus en plus. Elle cherche sa propre justification. Elle commence à mentir, à devenir orgueilleuse. Elle commence à éprouver de l'envie pour beaucoup de choses. Et puis, elle devient maître en tromperie. Elle développe des haines, des ressentiments. Elle retient en elle-même des sentiments de vengeance qui sont la plupart du temps inassouvis. Ça crée toutes sortes de problèmes psychosomatiques. Bref, elle pêche. Elle devient le contraire que Dieu voulait au départ. C'est-à-dire, elle est attirée par ce qui est le mal. Et Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il se repente. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Et la Bible déclare que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais l'âme, quand elle vient au monde, elle est dans les ténèbres. Elle voit rien d'autre, elle connaît rien d'autre. On lui fait des leçons de morale. Mais vous pouvez faire des leçons de morale, c'est pas ça qui va vous changer. Même des expériences graves, on pourrait dire, ben cette fois il a compris. Ben non, il n'a pas compris encore. Et il va recontinuer et l'arbre tombera toujours du côté qu'il penche. Donc elle a été créée. Si elle a été créée, ça veut dire qu'elle peut être détruite. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme liée au corps, alors, crée des maladies. Toutes les maladies ne sont pas psychosomatiques, mais beaucoup de maladies sont psychosomatiques. C'est-à-dire que ça influence le psychisme, tout ça. Ça influence et ça rend malade le corps. Et elle peut aussi devenir victime d'infirmité. Il y a des accidents, il y a toutes sortes. Enfin, finalement, elle peut mourir, c'est-à-dire le corps meurt, mais l'âme ensuite est détruite. Si un être vivant, une âme, entend la voix du bon berger et reconnaît la voix du bon berger, si elle se décide de suivre Jésus, le bon berger, c'est-à-dire de marcher selon ses enseignements, c'est-à-dire prendre au sérieux ce qu'il dit, c'est-à-dire se discipliner, pas faire n'importe quoi, pas dire « ah mais moi je pense que » ou « j'ai le droit ». Non. Si elle choisit d'être disciple, on ne devient pas chrétien quand on devient chrétien, on devient disciple. Ça suffit maintenant de dire « ah je suis chrétien ». Non, ça veut rien dire. Être disciple, on est disciple de Jésus ou rien. Donc si on est disciple de Jésus, on suit les commandements de Jésus, on suit ses préceptes, on fait ce qu'il dit, on s'y efforce, si on tombe, on se relève, on connaît sa miséricorde, mais on sait aussi qu'on doit lui obéir en renonçant à tout, même à notre propre vie. Jésus est terriblement exigeant à notre propre vie. Si on en arrive là, alors on atteint le deuxième degré. Le deuxième degré. À ce niveau-là, les fausses croyances commencent à disparaître. Pourquoi ? Parce que la lumière vient et elle met... la lumière éclaire les ténèbres, les ténèbres s'enfuient, et la vérité apparaît. Et puis, voilà, et ça c'est facile à comprendre, quand on allume la lumière, il n'y a plus de ténèbres. Alors c'est petit à petit que ça se fait, parce qu'il y a des tas de recoins dans l'âme, dans l'être d'une personne. Et il faut tout éclairer, il faut aller éclairer partout. Et alors ça prend beaucoup de temps. Vous avez des gens... Alors c'est rapide, et puis d'autres, non, ils ont encore des portes bien fermées, ils veulent pas que la lumière rentre là. Eh, mais petit à petit, Dieu fait dans son amour toutes sortes de choses pour que, à la fin, quand même, ils ouvrent toutes les portes afin que la lumière rentre partout. On est dans le deuxième degré. À ce niveau, les fausses croyances commencent à disparaître, l'être devient plus humain, c'est-à-dire il devient moins bestial. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Psychologiquement, ça veut dire que il commence à maîtriser son cerveau reptilien de plus en plus avec l'aide du Saint-Esprit qui vit en lui. On a tous un cerveau reptilien. Il se trouve juste là derrière la tête, là. C'est un héritage que nous avons eu à cause de Adam et Ève, surtout Ève qui a commencé. Et puis ensuite, les mélanges ont été faits et nous avons tous quelque chose en nous, non pas de Tennessee, mais du serpent. Et le cerveau reptilien, demandez à un psychologue, il vous dira ce que c'est. C'est tout ce qui est l'instinct de survie, la bestialité, la brutalité, tout ce qui est animal en nous. Et cet être régénéré va commencer à devenir honnête. Cet être régénéré, il va commencer à avoir de l'affection pour ce qui est pur, pour ce qui est noble. Il va commencer à avoir de l'aversion pour les autres choses, les choses des ténèbres. Il va avoir de l'affection pour les gens qui lui ressemblent et il va se mettre de côté. C'est pas qu'il va détester les gens des ténèbres, mais il va essayer de les attirer dans la lumière. Il va pas les fréquenter pour faire comme eux. Il va devenir compatissant. Oui, c'est vrai. Et il va développer de l'espérance, il va développer de la foi, il va développer de la patience, il va développer de l'humilité, de la tempérance, il va développer une force de caractère. Tout ça, c'est le travail, ça prend des années, mais tout ça, ça se développe, c'est ça, aller à la rencontre du Seigneur. Amen, vous me suivez? Et tout cela, ça n'est pas la perfection. Même si vous avez atteint l'espérance, la foi, l'humilité, la tempérance et toutes ces choses-là, vous n'êtes pas, on a ce sentiment, on sait bien qu'on n'est pas encore parfait. Une personne née de nouveau, une âme sauvée, ça veut dire la même chose. Une personne née de nouveau, c'est une âme sauvée. C'est quelqu'un qui est né de l'esprit. C'est-à-dire qui a quitté les ténèbres et qui marche dans la lumière, à la lumière de Christ, et qui profite de cette lumière et qui continue à avancer dans cette lumière sans se tourner ni à gauche ni à droite pour regarder ce qui se passe dans les ténèbres avec envie, mais qui marche toujours avec le Seigneur dans la lumière. Une âme sauvée, elle va développer des qualités que je vais appeler des qualités de transition. Elle est en marche vers la perfection qui est le troisième degré. Alors, sur terre, on a vu dans la lecture qu'on a faite, il y a des vierges folles et il y a des vierges sages. On a vu qu'elles sont en marche pour aller à la rencontre du Seigneur. Les deux, les folles et les sages, des vierges, c'est-à-dire je parle là de gens sauvés, de gens nés de nouveau. Je ne parle pas des idolâtres, je ne parle pas de ceux qui font semblant. Je parle pas de ceux qui promettent monts et merveilles devant monsieur le curé et puis qui font n'importe quoi après. Non, je parle de ceux qui sont vraiment nés de nouveau, qui se disciplinent à marcher droit avec Jésus sur une voie de rectitude, qui s'efforcent jour après jour avec l'aide du Saint-Esprit. Ces vierges folles, ces vierges sages, c'est des vierges qui se consacrent pour Dieu. Au bout d'un moment, comme le Messie, comme le Seigneur, comme l'époux tarde, elles s'endorment. Toutes. C'est-à-dire que c'est un autre terme pour dire elles sont inconscientes. Parce que quand on dort, on est inconscient. Quand on dort, on est inconscient. Ce qu'elles perçoivent du monde, c'est ce que la Bible appelle le charnel. Elle ne voit pas le spirituel. Elle ne peut pas parce qu'elle dort, elle est inconsciente, spirituellement parlant. Parce qu'elle s'est lassée. Parce qu'on lui dit « Jésus revient », moi ça fait depuis 1968 qu'on me dit « Jésus revient cette année ». Et il n'est toujours pas revenu. Mais j'en connais qui se sont endormis, mais tellement endormis qu'il y en a même qui ont quitté le Seigneur à cause de ça, en disant « ben il n'est pas revenu, il y en a marre, j'ai perdu tellement de temps ». Non, il faut se ressaisir mes frères et sœurs. Il y en a qui ont perdu conscience spirituellement, ils sont tellement endormis. Et alors, c'est pas qu'ils sont morts. Mais ils sont en train de vivre un rêve, et beaucoup vivent non pas un rêve, mais un cauchemar. Un véritable cauchemar. Vous les entendez dire, en tant que chrétien, la vie est dure, alors que Jésus dit, je suis la vie. Quand ils disent, la vie est dure, ça veut dire, Jésus est dur. La vie est injuste. Ça veut dire, Jésus est injuste, vous les entendez dire ça parce qu'ils sont dans un sommeil, ils sont dans un cauchemar, ils savent plus, ils ne discernent plus ce qu'ils sont même en train de dire, la valeur des mots qu'ils emploient, parce que les mots ont une valeur. Et ils ne s'en rendent même plus compte, ils ne savent pas qu'ils sont pauvres, misérables, aveugles, nus. Ils vivent une espèce de cauchemar parce qu'ils sont ignorants de la réalité spirituelle, parce qu'ils se sont lassés en marchant à la rencontre du Seigneur. Ils se sont fatigués. Ils ont dit, on va s'asseoir un petit moment, on va s'arrêter un peu. Pousse, Seigneur, j'arrête un moment, je me repose. Je reprendrai plus tard, à Pâques ou à la Trinité. Je te promets. Mais ils s'endorment. Même les Écritures qui sont transmises par l'esprit de prophétie. Jamais quelqu'un a parlé des choses qui sont écrites autrement que par l'esprit de prophétie. Même les Écritures ne lui apparaissent pas spirituellement. Elle lit, mais elle lit sans la clé de la compréhension qui n'est que spirituelle. Bien sûr, on peut avoir une compréhension poétique, scientifique, tout ce que vous voulez, mais la clé spirituelle des Écritures est perdue. Ils ont perdu l'essentiel. Ils dorment. Elle dort, mais elle ne sait pas. Pire, elle croit qu'elle ne dort pas. Ça vous est jamais arrivé de rêver et puis vous dites, mais c'est pas possible, je suis en train de rêver là, je dors, c'est pas possible. Mais on croit quand même pas qu'on dort, c'est terrible. Parce que quand on dort et puis qu'on rêve, on a des points de repère quand même, on y croit, on croit que c'est vrai ce qu'on est en train de rêver. Moi une fois j'ai rêvé que j'étais enceinte, mais j'y croyais. J'étais dans une salle de gym et on me courait après avec des battes de baseball pour me faire passer mon bébé. Et c'était terrible, je criais à Dieu, et j'y croyais. Puis je me suis réveillé, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce rêve d'idiote? C'est incroyable! Mais j'y croyais, ça vous est jamais arrivé de faire des rêves bizarres comme ça? Alors, les gens qui dorment et qui rêvent, ils croient que ce qu'ils sont en train de vivre, c'est du solide, c'est du vrai. Avez-vous remarqué, quand vous rêvez quelque chose, moi j'ai eu rêvé de vous. Alors je dis, j'ai rêvé cette nuit de Dominique. Et puis après, quand je me rappelle, quand je me réveille, mais c'était pas la tête à Dominique, c'était une autre tête. Mais dans mon rêve, c'était Dominique. Ça t'est déjà arrivé de rêver de moi, puis que c'était pas ma tête? Hein? Ben, Dominique, il dit que oui, donc je suis pas le seul zinzin dans la salle. On rêve, on n'est plus... Alors aujourd'hui, là, je suis en train de prêcher. Et je suis responsable de ce que je suis en train de dire. Mais vous êtes responsable de ce que vous entendez. Vous êtes responsable de ce que vous comprenez, de ce que vous voulez comprendre. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Qu'est-ce que Jésus? Qu'est-ce que les prophètes? Qu'est-ce que les apôtres nous enseignent? D'être humble. De se repentir de nos péchés. Parce que c'est nos péchés qui mettent un voile, une fatigue, spirituellement parlant. Repentez-vous de vos péchés. Demandez à Dieu de vous réveiller afin que vous voyez la lumière, c'est-à-dire la réalité. Et non pas ce brouillard de cauchemars, de rêves que vous faites, de trucs bizarres. Depuis 1977, nous sommes entrés dans une nouvelle dispensation. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est une étude que nous avons déjà faite. Et nous savons que le temps de l'Église dans les nations est fini depuis 1977. La vraie Église est en voie de disparition. C'est un processus. On peut le démontrer par les Écritures, j'ai écrit là-dessus. Il y a plus de 600 prédications sur Internet et vous pouvez trouver tous ces enseignements là-dessus. Ce processus n'est pas encore terminé, mes frères et sœurs. C'est pourquoi l'Évangile est encore prêché, et c'est pourquoi on voit encore des réveils un peu partout, des gens qui se convertissent, des gens qui sont guéris, et les gens disent « Ah, l'Église est... » Mais non, c'est fini, c'est ces derniers soubresauts. C'est un processus, le temps est terminé. Toutes les actions qui sont faites au niveau dans l'Église aujourd'hui sont faites au deuxième niveau. C'est fait sur le deuxième niveau. Les actes de la vraie Église, de la vraie, des vierges sages, elles sont faites dans un état de somnambulisme. Les gens pensent qu'ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. C'est faux! Ce qui est arrivé, c'est que Dieu a rétabli les dons. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, c'est bien autre chose, mes frères et sœurs. Là, c'est un état de sommeil, c'est un état d'inconscience spirituelle. Mais on peut savoir, parce que quand Dieu fait une chose une fois, il le refait toujours de la même manière. Et comment a-t-il fait autrefois? Il a toujours gardé un petit reste, un reste d'humanité au temps de Noé, un reste d'humanité, un reste de quelque chose. Il a toujours eu un reste qui était sauvé, Lot et sa femme, et un reste en Israël, un petit reste d'Israël. Pourtant, Dieu avait décidé, un petit reste toujours. Eh bien, aujourd'hui, il y a un reste qui ne dort pas. Il y a un reste qui ne dort pas. Ce sont ces vierges sages qui sont éparpillées dans ce monde, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs, et qui s'efforcent de vivre la parole de Dieu au plus près de ce qui leur a été révélé. Ce sont ces gens qui s'efforcent de vivre la parole de Dieu et qui se sanctifient. C'est-à-dire qu'ils se mettent à part. Ce petit reste se trouve sous la forme de deux lettres dans la Bible. Et on a lu ces deux lettres. C'est dans Matthieu chapitre 25, verset 6, où il est dit au milieu de la nuit, « On cria, voici l'époux aller à sa rencontre. » O-N, on cria. Qui c'est qui a crié? Ce petit « on » qui crie ne dort pas. Ce « on », c'est la voix de l'archange qu'on trouve dans 1 Thessaloniciens 4:16. Rappelez-vous 1 Thessaloniciens 4:16, qu'est-ce qui est dit? C'est au sujet de l'enlèvement. Et il est dit là, je vous le lis, si je le trouve, 1 Thessaloniciens 4:16, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette, de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » C'est une grande consolation de savoir ça. Mais vous avez vu, il y a eu un signal donné. Ce petit « on », c'est un petit reste de vierge sage qui ne dort pas. Un petit reste de vierge sage qui est conscient. Un petit reste de vierge sage qui est éveillé au sacré, qui est éveillé à l'esprit de prophétie, qui a donné ce livre. Alors toutes les vierges vont se réveiller, les folles et les sages. Ça va venir. C'est un processus, ça va venir. Elles vont se réveiller tout d'un coup. On va entendre parler du retour de Jésus à un tel point même que nous, on paraîtra complètement inaperçus là-dedans. Elles vont se mettre à préparer leur lampe. La seule chose qu'elles doivent avoir, leur lampe avec de l'huile. La lumière pour le moment présent. De la lumière pour le moment présent. Le savoir pour le moment présent. La connaissance pour le moment présent. La science pour le moment présent. La sainteté pour le moment présent. Parce que seul le savoir spirituel conduit à la mise à part correcte, à la sainteté correcte voulue par Dieu. Seul le savoir donne cela. C'est pas une expérience mystique de parlage en langue ou de choses comme ça. Non, c'est un savoir, une connaissance prophétique. Rappelez-vous, le quatrième être vivant qui agit en cette époque, c'est pas le bœuf, c'est pas l'homme. C'est quel animal, c'est l'aigle. L'aigle, c'est un animal qui vole haut, qui voit tout d'en haut, c'est l'esprit de prophétie qui est au milieu du trône et autour du trône, et en ce moment, il influence l'Église. C'est l'entendement au troisième degré. À ce troisième degré, l'entendement mortel disparaît avec toutes ses sottises et avec tous ses artifices. Et là, à ce troisième degré, l'homme, en tant qu'image de Dieu, apparaît. Ce que vous êtes n'a pas encore été révélé. Mais sous ce troisième degré, à ce moment-là, ce que vous êtes réellement apparaît. Ce savoir, cette connaissance, cette science spirituelle renverse ce qui semble évident aux êtres humains qui rêvent. Mais là, ils sauront, ils verront. Le témoignage de l'Écriture devient vrai dans nos cœurs. Dieu est pour nous ce que Dieu est réellement. Ce qu'il est nécessairement, c'est-à-dire, il renferme en lui, tout est renfermé, il renferme tout. Amen. La vue spirituelle de ce message de l'archange, 1 Thessaloniciens 4:16, comprend infiniment plus que ce qu'on aperçoit dans le premier degré ou dans le deuxième degré. Dans le premier degré, c'est les ténèbres. Dans le deuxième degré, c'est la nouvelle naissance et l'apprentissage des choses spirituelles. Mais au fur et à mesure qu'on approche, parce qu'on s'approche du Seigneur, alors la lumière devient une réalité. On rentre réellement dans l'intimité de Dieu. Ce message de l'archange 1 Thessaloniciens 4:16, il est l'entendement en tant que Messie. Dieu est tout. Et Dieu vient. Et par conséquent, la matière n'est plus rien qu'une image de l'entendement mortel. On ne s'attache plus On se détache de plus en plus des choses de cette vie, des façons de penser de cette vie, des comportements des gens de cette vie, de cette terre, de cette pauvre planète. Nous attendons la trompette de Dieu, parce que là, ça nous échappe complètement. Le signal donné, c'était William Branham, le premier, l'envoyé de Dieu, qui a montré une direction, un signal qui a été donné. Ensuite, la voix de l'archange, et maintenant, on est en plein dedans. Mais la trompette de Dieu, c'est la trompette de Dieu. Ça n'est pas sur la terre, c'est en haut que ça se passe. C'est Dieu. Et à la trompette de Dieu, à ce moment-là, nos corps seront changés, ils revêtiront l'incorruptibilité. Et l'important aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est d'avoir avec nous la portion d'huile du Saint-Esprit nécessaire pour aller à la rencontre de l'époux. Même si vous dormez, il faut que vous l'ayez. Vous devez l'avoir. Si vous ne l'avez pas, mon message peut peut-être vous donner juste un petit moment d'éveil pour vite aller vous dépêcher d'en chercher un peu. Comprenez-moi bien, l'enlèvement c'est un processus en trois phases. Un, le signal a été donné. William Branham a montré la direction. Qui connaît, qui sait, qui a lu? Oh, par contre, alors on peut dire, qui a dit du mal de cet homme de Dieu? La plupart des chrétiens, même sans savoir, ils disent du mal. Ils n'ont même jamais rien lu, mais ils font que de répéter ce que les uns ont dit avant eux. Deuxièmement, il y a la voix de l'archange. Ce « on » qui crie, l'époux vient, allez à sa rencontre, remettez-vous en marche. Et on y va. On y va ici-bas. On y va ici-bas, c'est-à-dire dans la matière, se sanctifiant. Le premier pas, c'est de sortir de l'église apostate. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés qui se sont accumulés comme une outrance devant la face de l'Éternel. Deuxièmement, c'est de vivre comme l'Église primitive vivait, pas comme l'Église primitive croyait, on s'en fout de ce qu'ils croyaient. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'ils vivaient. Quand on vit quelque chose, on y croit. Et troisièmement, de rester fidèle à notre engagement du départ, ne pas se lasser, ne pas se décourager, ne pas chercher le petit détail qui fait qu'on est toujours en train de râler, toujours en train de rouspéter et de ruiner l'ambiance. Non, on se consacre parce qu'on est sérieux dans les choses de Dieu. Les fidèles, ce sont ceux qui, bien que peut-être endormis, auront la portion d'huile nécessaire au dernier moment. Les autres, ce sont les vierges folles qui agissent au premier degré ou qui agissent au deuxième degré. Peut-être qu'ils sont plus intelligents que vous. Ne faites pas de complexe. Ne faites pas de complexe. C'est spirituellement qu'on en juge. C'est-à-dire, ce sont ceux qui veulent leur liberté. Ce sont ceux qui aiment le plaisir plus que Dieu. Mes frères et sœurs, je ne me lasserai pas de le dire, marchez selon l'esprit et non selon la chair. Et je vais terminer ma prédication en faisant une lecture dans Éphésiens chapitre 4 et verset 17. Écoutez bien ce que l'esprit dit à l'église aujourd'hui. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Là, c'est, il dit, il n'est pas en train de dire, c'est pas le Seigneur qui dit, c'est moi qui dis. Non. Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur, c'est-à-dire, si vous prenez la phrase, ça veut dire, à cause de l'endurcissement de leur cœur, une ignorance s'est installée. À cause de l'endurcissement de leur cœur, c'est pas parce qu'ils sont ignorants qu'ils se sont endurcis, c'est parce qu'ils sont endurcis qu'ils sont devenus ignorants. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. C'est notre époque. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Jésus-Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et je crois que vous l'avez entendu ici, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, à vous dépouiller. Oh, ils veulent pas entendre parler de ça. Ils veulent entendre un évangile de guérison miracle, ils veulent entendre un évangile de prospérité, mais ils veulent pas entendre à être instruits à se dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Qu'est-ce qui produit la justice et la sainteté? C'est la vérité. Si ce n'est pas la vérité, ça produit de la saleté. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Vous voyez, il dit ça à ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont déraillé. Sinon, il ne leur dirait pas. Pourquoi est-ce qu'il irait leur dire si tous ils étaient en train d'être parfaits? Il ne leur dirait pas, mais il leur dit parce qu'il y en a qui ont déraillé et que c'est possible qu'ils reviennent. Et c'est encore possible aujourd'hui. Amen. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Oui, donc ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui dérobaient. Ah, mais quand même alors. Mais oui, s'il leur dit, c'est à des chrétiens qu'il écrit. Il dit, si vous, celui qui dérobait, qui ne dérobe plus. Je suis sûr, dans l'église, il y a encore dit, ah bon? Il y avait déjà des toyers, hein, à l'époque. Dans chaque village, il y a un toyer. Où il est le toyer ici? Dans chaque village, il y en a un. Toyer, ça veut dire, zinzin. Si vous, alors, où est-ce que j'en suis? Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption, ça n'est pas encore arrivé. Il y en a qui se trompent, qui croient que ça y est, c'était fait. Ah. Nous avons été, grâce à Jésus, sauvés, rachetés, mais comme mis dans un wagon qui va dans une direction, et ce wagon est scellé pour le jour de la rédemption. Ce jour-là, le wagon sera, le sceau sera enlevé et on sera jugé. Lieu. Un peu plus loin, il est écrit nous soupirons après l'adoption, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. C'est pas fait encore. Ah là 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 là. L'assurance du salut. Il faut être un peu intelligent. Bien sûr que Jésus a tout fait pour notre salut, mais maintenant il nous demande toutes ces choses d'une façon très exigeante. Où est-ce que j'en suis? Que toute amertume, que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Donc ça veut dire qu'il y en avait encore, hein, chez les Éphésiens. Soyez bons les uns envers les autres. Ça vous ferait du mal d'être bons. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Ça veut dire qu'il y a de quoi pardonner. Si on doit se pardonner réciproquement, ça veut bien dire qu'il y a de quoi pardonner. Ça veut dire qu'il y a quand même quelques beaux crétins qui font des choses bêtes dans la communauté des Éphésiens. Donc moi, ça me console. Ça veut dire qu'à moi aussi, on doit me pardonner. Et moi aussi, je dois vous pardonner vos bêtises. C'est pas fini. On peut encore pardonner parce qu'il y a encore dans l'Église des gens qui font des bêtises. Et moi, je suis le premier. Soyez bons les uns vers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comment est-ce que Dieu nous a pardonné en Christ? Il nous a pardonné à l'avance. Il nous a pardonné à l'avance, avant même que nous naissions. Nous devons nous pardonner comme Dieu nous a pardonné en Christ. Nous devons nous aimer les uns les autres et marcher droit avec le Seigneur. Il revient bientôt. Là, ce n'est pas une blague. Vous savez ce qui est arrivé? Ouais, je vais vous le dire, ça me fait tellement plaisir. Ça n'a pas tellement paru dans les journaux, ça. Juste, je crois, dans le Nouvel Observateur. Vous savez que dernièrement, ils ont tiré sur Israël des missiles. Vous avez entendu parler de ça. Vous savez ce qui est arrivé? L'ambassade française avait invité, je crois, 9 ou 19, je ne sais plus, imams français. Et ils étaient là, dans l'ambassade, les imams. Hein, les imams. Et puis, ils étaient là, dans l'ambassade française, et tout à coup, les sirènes se sont mis à sonner. Tout le monde s'est regardé bizarrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont arrêté tout ce qu'ils étaient en train de faire, et ils ont fui. Et ça a commencé à canarder. Les missiles sont tombés à 700 mètres des imams français. Vous croyez? Oui, Philippe, on peut rire. Vous croyez qu'ils vont dire quoi quand ils vont rentrer d'Israël, les imams français? Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est grand. Dieu sait faire les choses. Je crois que c'est encore une chance pour la France. J'espère que ces imams seront honnêtes et diront voilà ce qui est arrivé. Nos frères nous ont tiré dessus. Bon, ils ne voulaient pas tirer sur des imams, c'est certain, mais vous voyez, Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Frères et sœurs, on est dans une époque formidable. Relevons la tête, ne nous décourageons pas. Allons de l'avant, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mettons-nous debout et prions. Merci Seigneur Jésus de ce que tu nous as ouvert les yeux pour que nous comprenions dans quel temps nous critiques nous vivons, afin que nous ne nous décourageions pas, que nous ne nous laissions pas séduire par l'esprit du monde, mais que nous marchions tel que toi tu veux que nous marchions, que nous ne nous laissions pas aller dans toutes sortes de choses, des débordements comme les païens, mais que nous marchions en fidélité, attirant les païens à toi, mais ne les fréquentons pas pour leur ressembler. Merci Jésus, merci mon Dieu de ce que tu nous enseignes. Merci Seigneur, parce qu'un jour viendra où tu révéleras ce que nous sommes réellement, et nous nous réjouissons de cela. Notre âme, notre esprit soupire après ce moment où nous serons révélés. Que ton nom soit béni. Je te prie pour chacun et chacune. Et si quelqu'un est troublé ce soir, si quelqu'un sur Internet ou ici peut-être même est troublé, eh bien qu'il rentre en lui-même et qu'il fasse la paix avec toi. Simplement, en toute simplicité, sans cinéma, mais qu'il dise, Père, bon, eh bien je veux revenir. Je veux marcher, je veux me remettre en route et je veux partir à ta rencontre dans la sainteté et la simplicité de l'Évangile. Au nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Amen.